rozumiem tutaj Europę.
Rozkrucia Europej.
Stavrodromitis Europis.
Treffpunkt Europa.
The Hub of Europe.
Carrefour de l'Europe.
Daniel Desesquelles.
Guillaume Meunier.
Bonjour, bienvenue au Carrefour de l'Europe. Les lords ont dit oui, la Chambre des communes a confirmé et la reine a donné son assentiment. Theresa May a désormais les mains libres. Cette fois-ci, le Brexit est lancé, même s'il n'est pas encore formellement déclenché. La City tout saute et s'interroge, les industriels s'inquiètent et la première ministre écossaise Nicola Sturgeon a aussitôt annoncé qu'elle souhaitait organiser un nouveau référendum sur l'indépendance de l'Écosse. Le Royaume-Uni prend ainsi le risque d'être désuni. Mais rien n'y fait, s'il revoté aujourd'hui, les Anglais confirmeraient leur divorce de l'Union européenne. Le Brexit est sur les rails. Quelles conséquences en Grande-Bretagne et quel impact pour les 27 pays de l'Union européenne? Je vous présente les invités qui nous ont rejoints. Bonjour, Jean-Dominique Giuliani.
Bonjour.
Vous êtes le président de la Fondation Robert Schuman. Et l'actualité de la Fondation, il y en a plusieurs, mais en tout cas, il y en a une, c'est la publication du rapport annuel sur l'état de l'Union. C'est un peu le vademécum de tout ce qu'il faut retenir de l'année écoulée pour l'Union européenne.
Oui, avec des cartes, des statistiques et quelques articles assez brefs sur les principaux au sujet de cette année si importante pour l'Europe 2017.
Et c'est évidemment disponible via le site de la Fondation Robert Schuman, que vous trouvez d'ailleurs sur la page de Carrefour de l'Europe. Paul Taylor, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste et éditorialiste à Politico. Merci d'être en ligne de Londres. Politico, pour ceux qui ne connaissent pas en quelques mots.
Bah, c'est un site d'information en ligne, donc qui a un journal physique une fois par semaine à Bruxelles. Ça a été fondé aux États-Unis pour faire une couverture de la politique et de l'économie un peu différente, un peu plus agressive peut-être que les médias traditionnels. Et en Europe, depuis 2 ans, il s'est rendu quasiment indispensable pour tous les décideurs et tout ce qui gravite autour de l'Union européenne.
Bonjour, John Pitt.
Oui, bonjour.
Vous êtes journaliste, vous aussi, à The Economist. Merci aussi d'être en ligne de Londres. Alors, on peut rappeler que votre journal s'était prononcé l'an dernier contre le Brexit et ça a été forcément une grande déception pour vous.
Ah oui, non, c'est exact. Nous étions critiquables de l'Union européenne, mais nous n'aimons pas le Brexit. Le Brexit n'est pas une bonne réponse pour la Grande-Bretagne, ni pour l'Europe, ni pour le monde.
Eh bien, on va voir ça au cours de cette heure à venir. Jean-Émile Giuliani, si l'article 50 n'a pas encore été déclenché, c'est lui qui rendra le début du temps du chronomètre. Si l'article 50 n'a pas encore été déclenché par les Britanniques, c'est surtout à cause du calendrier européen. Il y a eu des élections aux Pays-Bas cette semaine, et puis il y a dans 8 jours la cérémonie des 60 ans du traité de Rome. Il faut y voir une délicatesse britannique. Le déclenchement officiel aura lieu quand ?
Absolument. Je crois quand même que, ne l'oublions pas, y compris dans cette négociation future, nous sommes entre partenaires. Et il y a quand même un minimum de règles. Je crois que Theresa May attend que le calendrier européen soit opportun, vraisemblablement autour de la fin du mois, en quelque sorte. Et ce n'est pas une affaire qui se déroule à un jour ou 2 jours près. Et c'est vrai que pour le 25 mars, on va fêter les 60 ans du traité de Rome, c'est-à-dire à la fois faire le bilan et puis, je l'espère, regarder vers l'avenir, parce que c'est à ça que doivent servir les commémorations, finalement.
John Pitt, quand Theresa May, la première ministre britannique, déclare « Brexit means Brexit », que doit-on comprendre lorsqu'on est un Européen du continent ?
Je crois que ce qu'elle veut faire avec cette phrase, c'est de dire que après le référendum, la Grande-Bretagne va quitter l'Union européenne. Il n'y aura pas deuxième référendum ou élection ou quoi. On va quitter l'Union européenne et plus que ça, récemment, on dit que la Grande-Bretagne va quitter le marché intérieur aussi.
Alors, Paul Taylor, ce Brexit, ça va être, on peut l'imaginer en tout cas, une tâche titanesque, car il va falloir détricoter 4 décennies de relations communes. Ça peut se faire, c'est vraiment comme les pyramides devant les négociateurs, on ne sait pas par quel bout le prendre.
Ça va être d'une extraordinaire complexité. Il a fallu créer des ministères qui n'existaient plus, comme un ministère pour le Brexit, pour la sortie de l'Union européenne, un ministère pour le commerce international. Depuis plus de 40 ans, nous négocions tous nos accords commerciaux à travers l'Union européenne. Et donc, tout ça est à inventer. Et ça va être d'une très grande complexité. Complexité, comme si on essayait de défaire une omelette et d'en faire des œufs. Et la difficulté...
Ou de remettre le dentifrice dans le tube dentifrice, c'est ça?
Exactement. Il y a beaucoup d'incertitudes, et il y a une incertitude d'abord sur la facture du divorce. Il y a toujours un règlement financier dans chaque divorce. Et là, il y a certainement sujet à fâcherie. Ensuite, sur le statut des citoyens européens au Royaume-Uni et britanniques dans les pays d'Europe, si tout le monde est en gros d'accord sur l'idée qu'il ne faudrait pas que ceux qui y sont déjà perdent leur statut et soient obligés de repartir. Il n'y a pas du tout d'accord sur le mouvement la liberté de circulation après, non plus sur les droits sociaux, fiscaux, etc., que garderaient les citoyens des uns et des autres chez les autres. Ensuite, il y a les relations commerciales. Est-ce que on aura des relations commerciales privilégiées? Est-ce qu'il faudra retomber simplement dans l'escarcelle des règles de l'OMC, ce qui voudrait dire que le Royaume-Uni soit traité comme n'importe quel autre pays tiers avec des tarifs, avec variables selon les choses. Et puis, il y a toute la question, la sécurité, la défense. Le Royaume-Uni est très imbriqué avec ses partenaires européens dans ces domaines-là. Le Royaume-Uni restera un pays membre de l'OTAN qui est responsable de la défense territoriale de l'Europe, mais quid de ses relations avec la politique extérieure commune de l'Union, avec ses tentatives de développer une politique de défense commune, avec le partage des renseignements, de le travail de police, y compris contre le terrorisme à un moment où c'est un fléau qui menace des deux côtés de la Manche.
Alors, tel qu'on vous écoute, Paul Taylor, on a l'impression évidemment que c'est une montagne de négociations qui vont être menées en parallèle.
Et je pense pas du tout qu'on puisse raisonnablement le conclure en 2 ans. Maintenant, ce qui devrait pouvoir, dans le meilleur des cas, se négocier dans 2 ans, c'est des accords assez basiques sur le divorce, qui paye, qui garde la voiture, qui aura les disques vinyles, etc., comme dans n'importe quel divorce. Il y aura ensuite un accord sur le grand cadre de relations futures, mais qui resterait à négocier dans le détail pendant peut-être une décennie. Et puis il y aurait, troisièmement, un accord de transition pour permettant des délais d'application et donc un sursis avant que ne soient appliqués des tarifs, etc. Ça, c'est dans le meilleur des cas. Dans le pire des cas, le Royaume-Uni pourrait sortir sans accord aucun, et à ce moment-là, peut-être avec une dispute sur la facture qui serait à juger ultérieurement devant le tribunal international de la Haye, absolument sans accord sur le cadre des relations futures. Ça, c'est un petit peu le cauchemar de tout le monde, parce que ça créerait une incertitude juridique, y compris pour les citoyens vivants dans les pays tiers. Et donc, on essaye quand même d'éviter ça, mais ce n'est pas du tout exclu, loin de là.
Alors, John Pitke, qu'est-ce que les Britanniques veulent sauver à tout prix dans cette négociation, dans cette...
Ce qu'elle a dit, c'est d'abord, elle a dit que la Grande-Bretagne, elle veut quitter le marché unique, le marché intérieur. Elle veut éviter, de toute façon, la juridiction du corps de justice européenne à Luxembourg. Et ça veut dire pas dans l'union, pas dans le marché unique, pas du tout. Mais néanmoins tout ça, elle veut avoir le plus grand flexibilité sur les échanges et sur le marché de d'export et d'import vers l'Union européenne. Et ça sera très difficile à faire parce que la Norvège, par exemple, est dans le marché unique, mais la Grande-Bretagne veut sortir du marché unique. Donc, ça sera difficile de maintenir les relations comme à présent.
Alors, il paraît qu'il y a une blague qui circule sur les réseaux sociaux. On y voit Theresa May qui appelle un fournisseur d'accès à Internet et elle lui dit « Je voudrais annuler mon abonnement, mais j'aurais continué quand même à avoir accès à vos services. » C'est un peu l'état d'esprit des Britanniques en ce moment, John Pitt?
Oui, non, c'est comme Boris Johnson a dit, on veut manger le gâteau et avoir le gâteau. Et toujours les Britanniques veulent manger le gâteau et avoir le gâteau.
Alors,
je dis ça sera possible, ça ne sera pas possible, pas du tout, selon moi.
Jean-Dominique Giuliani, quelle est la priorité des Européens dans cette négociation qui va commencer à la fin de ce mois, au début du mois prochain, au plus tard?
To have the cake and eat it, c'est l'équivalent idiomatique de la formule française, le beurre et l'argent du beurre.
Très normande.
Ouais, absolument. Écoutez, non. Alors, je crois qu'il faut quand même ne pas oublier ce qu'est une négociation d'adhésion ou de quitter l'Union européenne. C'est une négociation politique entre États. Et être membre ou pas de l'Union européenne, ça concerne les États. Alors, évidemment, on se focalise sur les sujets techniques qui sont, tellement complexes, comme le disait Paul Taylor, qu'on aperçoit un mur énorme. Je crois qu'à un moment ou à un autre, et peut-être à plusieurs moments de la négociation, il y aura des négociations politiques. Theresa May a interprété le référendum du 23 juin dernier, qui a voté pour le Brexit. Elle a interprété politiquement, c'est toujours difficile d'interpréter les référendums sur l'Europe, on en sait quelque chose en France. Elle a dit, voilà, les citoyens britanniques veulent d'une part moins d'immigration intérieure, entre l'Union européenne et le Royaume-Uni, et d'autre part ne veulent plus, comme ça a été rappelé à l'instant, la juridiction de la Cour de justice, que le droit européen s'applique. Donc, partant de là, ça, évidemment, quand on regarde ce que ça veut dire, elle-même dit, si vous exigez que dans le marché unique, il y ait les quatre libertés, dont la liberté de circulation, etc., on va sortir du marché unique. Mais ce n'est pas une demande de sortir du marché unique, c'est une demande d'essayer de prendre en compte ces contraintes politiques. Elle était elle-même pour rester dans l'Union, donc c'est une contrainte pour elle aussi.
Relativement mollement.
Mollement, c'est vrai. Donc, je pense qu'à un moment ou à un autre, on va commencer des discussions techniques, elles sont très difficiles, on va se disputer sur la facture, mais à un moment ou à un autre, il va y avoir un appel politique en disant qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce qu'on peut accepter. Et à ce moment-là, les Européens, qu'est-ce qu'ils peuvent accepter? Ils peuvent accepter, comme c'est répété dans un rapport du Sénat français récemment, ils peuvent accepter des relations à peu près normales avec le Royaume-Uni, mais qui seront forcément un peu dégradées par rapport à la situation actuelle. On ne peut pas avoir la même chose quand on est dehors et quand on est dedans. Donc c'est là-dessus que vont porter les négociations. Une fois encore, elles seront très politiques. Techniquement, je fais confiance et aux diplomates britanniques et aux diplomates de l'Union européenne pour arriver à faire rentrer, cette fois-ci, non pas dans le tube d'entrifice, mais dans la bouteille, à peu près, le grand navire du Brexit.
Alors, Paul Taylor évoquait, il y a quelques minutes, un sujet brûlant, c'est la facture que devra régler le Royaume-Uni pour solde de tout compte, qui correspond donc aux engagements pris par Londres en termes de contribution au budget européen, et Bruxelles pourrait exiger environ jusqu'à 60 milliards d'euros. Alors, Paul Taylor, est-ce que le 23 juin, lorsque les Britanniques ont voté, est-ce qu'ils étaient conscients de ce petit point de détail qu'il en est tout de même pas un?
Non, ils étaient absolument pas au courant. Et d'ailleurs, même maintenant, le livre blanc qu'a publié le gouvernement britannique après le fameux discours de Theresa May sur le Brexit ne contient aucune référence à aucune obligation de paiement pour la sortie. Donc, on part de positions extrêmement éloignées. Des juristes britanniques, évidemment, les juristes sont capables de vous dire tout et n'importe quoi, mais des juristes britanniques ont dit, mais selon le droit international, en fait, les obligations de paiement d'un État membre d'une organisation internationale s'arrêtent au jour où ce pays quitte l'organisation en question. Donc, il conteste toute l'idée que le Royaume-Uni aurait pris des engagements absolument contraignants sur des périodes de 5-10 ans à l'avenir pour des constructions d'infrastructures ou pour l'aide aux régions les plus pauvres, etc. Il y a effectivement aussi la part des retraites des fonctionnaires européens où le Royaume-Uni, normalement, doit payer sa part. Alors ça, c'est une partie importante de la facture sera dans les retraites où les Britanniques diront peut-être oui, d'accord, mais on payera que les retraites des fonctionnaires de nationalité britannique, et les Européens diront non, vous payerez votre pourcentage en fonction de votre PIB, votre produit intérieur brut, de l'ensemble des retraites des fonctionnaires européens.
Paul Taylor, il y a un autre dossier que vous avez évoqué d'ailleurs, c'est le sort des Européens installés outre-Manche. Ils sont environ 3 millions, et celui des Britanniques installés sur le continent, eux, ils sont environ 1 200 000, et les uns comme les autres sont inquiets, comme l'a constaté Marie Afonso.
La sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, devenue imminente, fait renaître les inquiétudes liées au Brexit des deux côtés de la Manche. Pour Jérémy Lee, jeune Français qui vit et travaille à Londres depuis plus d'un an, des signes sont déjà perceptibles.
Déjà dans mon secteur d'activité, il y a beaucoup d'entreprises qui ont un petit peu mis en suspens leur projet immobilier en Angleterre, et ils pensent à redéployer leur siège en Europe. Donc forcément, l'Angleterre va s'appauvrir, et notamment Londres. Le Royaume-Uni, elle a un petit peu à deux vitesses entre Londres et le reste. Je pense qu'aujourd'hui, les Londoniens sont très pro-européens et ils bénéficient pleinement du système. Et Londres sera très impactée par cela. Pour le coup, les gens qui habitent en dehors de Londres ont moins cette conscience de la perte de l'Europe et de ses forces. Et donc on va assister à des déséquilibres encore un peu plus profonds entre Londres et le reste du Royaume-Uni dans les années qui suivent. Parce qu'on a vraiment des différences de mentalité entre les gens qui sont à Londres et en dehors. Et ça va encore un peu plus, le fossé va encore un peu plus se creuser.
Les Britanniques installés en France, à l'instar de Karl Wermick, craignent également les suites du Brexit.
Au niveau personnel, je crois que il y a les éléments de la retraite, il y a les éléments de la peur de chômage, il y a beaucoup de mouvements dans les grandes entreprises actuellement, parmi lesquels la mienne. Et donc oui, j'ai des soucis ce que ça va entamer pour les personnes comme moi et pour ma fille dans l'avenir aussi. J'ai un métier qui est ici en France, j'ai ma fille qui est scolarisée ici, j'ai une maison, j'ai ces attachements-là et j'avais prévu de passer ma vie en France, mais là je ne sais pas si j'aurai le droit de prendre la nationalité. Je ne sais pas non plus si les opportunités, est-ce que le Brexit ça va enchaîner encore des problèmes économiques pour la France, je ne sais pas, mais est-ce que je vais vouloir rester en France à ce niveau-là? C'est une autre question qui commence à se poser.
John Pitt, de chaque côté de la Manche, on sent bien, écoutez nos interlocuteurs là, qu'il y a le risque d'être pris pour des citoyens de seconde classe. Il y a un vrai risque selon vous ?
Non, je crois pas. Je crois que ça sera un problème qui sera assez facile à régler. Les Britanniques veulent que les Européennes, les gens des autres pays de l'Union européenne restent en Angleterre et les autres pays, c'est la même chose. Donc ça sera assez facile à régler, je crois. Mais la facture sera, comme Paul Taylor a dit, sera beaucoup plus difficile à régler. L'argent est plus difficile à régler que les gens qui restent en Angleterre, au Royaume-Uni et les autres.
Alors, je vous laisse 30 secondes pour exprimer cette idée. On a été très surpris de ce côté-là du continent que le Brexit a libéré un discours xénophobe que l'on croyait hors de propos jusqu'alors au Royaume-Uni. Paul Taylor, en 30 secondes, mais vraiment pas une de plus.
Oui, effectivement, il y a une la parole a été lâchée. Il reste à savoir si ça va être une tendance qui va se maintenir ou si ça a été un mauvais moment. Mais en tout cas, il fait pas bon être étranger au Royaume-Uni en ce moment, je trouve. Et je pense que c'est pas le seul pays d'Europe où malheureusement la parole raciste et xénophobe a été lâchée. On en a on voit des exemples aussi aux Pays-Bas, en France aussi, et parfois liés à la montée de l'extrême droite populiste, comme de ceux qui étaient partisans, une partie de ceux qui étaient partisans du Brexit au Royaume-Uni.
Paul Taylor et nos autres invités, on va faire une pause sur RFI, la radio de l'Europe et du monde, le temps de prendre connaissance des dernières nouvelles de la planète. À tout de suite.
Musique du monde. Cruzamento toute Europa.
Raskrucha Europei.
Stavrodromitis Evropis.
Treffpunkt Europa.
The Hub of Europe.
Carrefour de l'Europe.
Daniel Desesquelles.
Guillaume Meunier.
Rebonjour, Carrefour de l'Europe, deuxième partie. Si vous nous rejoignez, nous parlons du Brexit qui est désormais sur les rails depuis que les lords ont dit oui, que la Chambre des communes a confirmé, que la reine a donné son assentiment. Theresa May a désormais les mains libres, même si le Brexit n'est pas encore formellement déclenché. La City tout saute et s'interroge, les industriels s'inquiètent et la première ministre écossaise Nicola Sturgeon a aussitôt annoncé qu'elle souhaitait organiser un nouveau référendum sur l'indépendance de l'Écosse. Le Royaume-Uni prend ainsi le risque d'être désuni. Mais rien n'y fait, s'il revotait aujourd'hui, les Anglais confirmeraient leur divorce de l'Union européenne. Le Brexit est sur les rails. Quelles conséquences en Grande-Bretagne et quel impact pour les 27 pays de l'Union européenne? Je vous représente les invités qui nous ont rejoints. Jean-Dominique Giuliani, il est le président de la Fondation Robert Schuman. Paul Taylor, journaliste et éditorialiste à Politico, il est en ligne de Londres, tout comme John Pitt, journaliste asie-économiste, lui aussi en ligne de Londres. Alors, je vous disais dans mon introduction que les Britanniques voteraient aujourd'hui encore pour le Brexit. Tous les sondages le confirment, hein, je crois. Paul Taylor.
Oui, il n'y a pas eu beaucoup de remords encore parmi les Britanniques. C'est en partie parce que l'impact économique qu'on prédisait désastreux dès le vote, en fait, n'a pas eu lieu. Forcé de constater que pour l'instant l'économie britannique se maintient à peu près grâce à la consommation. À moyen terme, on entrevoit des grandes difficultés, des baisses d'investissement liées aux incertitudes du Brexit. Donc on peut imaginer que le chômage va augmenter, que l'inflation, puisque la livre a été dévaluée d'à peu près 15%, depuis le vote, que la dévaluation va entraîner une reprise de l'inflation qui ne sera pas forcément compensée sur les salaires. Donc à moyen terme et à plus long terme, on peut encore imaginer que les conséquences pour l'économie britannique soient assez graves, mais ce n'est pas ressenti pour l'instant. Je pense donc que la même chose s'applique en Écosse, même si Madame
À la question écossaise, Paul Taylor. John Pitt, quel est l'état d'esprit des Britanniques? Bon, ils ont l'impression qu'ils ont fait vraiment le grand choix pour une Grande-Bretagne, plus grande que jamais.
Je crois que l'esprit britannique est assez optimiste, comme Paul Taylor a dit, que l'économie marche bien. Les Britanniques pensent qu'il y a un monde. Il ne s'agit pas de rester toujours concerné de l'Europe. On peut échanger les choses avec l'Asie, avec les États-Unis, etc. Donc je crois que pour l'instant, tout le monde en Grande-Bretagne est plutôt optimiste.
Et voire
euphorique. Mais je crois que pendant les deux ans qui arrivent maintenant, ça peut changer.
Jean-Dominique Giuliani, ce que disent les experts d'une manière générale, alors il y a les pour et les contre, mais c'est quand même que le Royaume-Uni a plus à perdre dans le Brexit que le reste de l'Europe.
Oui, même si tout le monde a à perdre. Et ce que je crois, c'est que pour l'instant, il ne s'est rien passé, en dehors de ce vote. Donc, il faut beaucoup de temps, vraisemblablement, pour voir l'impact. Je crois qu'il y aura un appauvrissement du Royaume-Uni, incontestablement, qui ne bénéficiera plus quand même de cette formidable marché, de ce formidable marché européen qui a permis à tous nos pays de se reconstruire, en fait, après le second conflit mondial, même si on garde des liens, il y a aussi une sorte, en fait, le Royaume-Uni est la première victime à l'ouest de l'Europe du populisme. Le vote Brexit, c'est un vote populiste, nationaliste, avec toute une série d'autres raisons. On voit que l'est de l'Europe n'est pas épargné non plus. Et pour l'instant,
de la Pologne ou de la Hongrie, mais pas seulement.
Pour l'instant, les pays de l'ouest, on l'a vu avec les Pays-Bas. On espère que ce sera la même chose en France. On voit qu'on arrive à contenir un vote populiste, qui est une sorte de mélange entre un désarroi à l'égard de ce qui est devenu le monde. Ça va trop vite, l'immigration et un euroscepticisme latent, un mécontentement à l'égard des... C'est cela, finalement, le populisme européen, si on doit le comparer par rapport au populisme américain, qui lui aussi a triomphé.
Alors pour savoir qui sort son épingle au petit jeu du qui perd gagne à l'aune du Brexit, plutôt les Britanniques ou plutôt les Européens, nous allons faire un détour par la rédaction de Courrier International. Bonjour Judith Sinige.
Bonjour Daniel.
Il est généralement admis de chaque côté de la Manche que le Brexit donc causera plus de tort au Royaume-Uni qu'à l'Union Européenne. C'est ce que vient nous expliquer Jean-Dominique Giuliani. Ce n'est pas du tout le point de vue, mais alors pas du tout, d'un Irlandais du nom de Brendan Sims qui s'est exprimé dans les colonnes du New Statesman.
Oui, absolument. Et ce journaliste irlandais, il a publié un article très intéressant dans l'hebdomadaire New Statesman. C'est un hebdomadaire britannique dont la traduction française, vous pouvez le relire sur Courrier International. Lui, il dit que ça ne sera pas du tout catastrophique, le Brexit, pour le Royaume-Uni. Et bien au contraire, c'est une erreur de penser ça, dit-il. Et en fait, il décortique tous les arguments selon lesquels le Brexit serait une mauvaise idée pour le UK. Il dit d'abord, voilà, le pays n'est pas un pays moyen, d'un poids moyen. Son importance est vraiment considérable et c'est un pays qui est au cœur de l'ordre européen. Il a toujours été, il le sera toujours. Et il dit l'Union européenne a plus besoin de lui que vice-versa. Il explique aussi pourquoi. L'Union européenne, par exemple, dépend beaucoup de l'OTAN pour sa défense. Or, le Royaume-Uni est le pays européen le plus dominant dans l'OTAN. En plus, l'économie britannique est très forte. Elle pèse plus que, par exemple, l'économie de la Russie. Il a un arsenal nucléaire. Bref, c'est un pays vraiment important sur la scène internationale et important pour l'Union européenne.
Et c'est fort de ces points que vous venez d'évoquer, Judith, que Brendan Sims explique que si l'Union européenne voulait se lancer dans un bras de fer avec le Royaume-Uni, il serait loin de le gagner.
Oui, il dit qu'en cas de bras de fer, ce n'est pas l'Union européenne qui va le gagner, ce sera plutôt le Royaume-Uni. Même si l'Union européenne a envie de punir en quelque sorte le Royaume-Uni pour quitter l'Union, par exemple en lançant une guerre commerciale, le Royaume-Uni va rétorquer. Et puis en cas de guerre commerciale, le Royaume-Uni ne va pas être sur les genoux comme par exemple la Grèce. L'économie est bien plus forte que cela.
Et alors, comme il n'est pas avare de conseils, il a une solution pour que l'Union européenne rebondisse après ce Brexit qui risque d'être plus catastrophique, comme on vient de le comprendre, pour l'Union européenne que pour le Royaume-Uni. Et quelle est sa solution, Judith ?
Oui, il parle aussi de nombreuses crises qui ont montré la faiblesse de l'Union européenne, et aussi la faiblesse du fonctionnement, la crise en Ukraine, sans avoir une défense européenne commune, la crise des migrants, la crise de l'euro. Il dit qu'il y a une seule solution, c'est poursuivre l'intégration européenne, créer une vraie union politique, une union fédérale. Mais malheureusement, comme il dit, ce ne sera pas pour demain.
Merci Judith, Courrier International, l'hebdo et courrierinternational.com, le site. Alors, John Pitt a écouté Brendan Sims. On pourrait croire que la reine Victoria domine encore le monde du haut de son trône. C'est pas forcément ce qui se passe. Qu'est-ce que vous pensez quand vous entendez un discours comme celui-ci? Il semble quand même que la City, que les industriels s'inquiètent de la tournure que pourrait prendre l'économie britannique avec le Brexit. Ça, évidemment, une fois que le Brexit sera lancé, c'est-à-dire pas encore maintenant.
Non, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Brendan Sims sur ce point. Je crois que l'économie britannique va souffrir après le Brexit, parce que la City de Londres, par exemple, dépend assez fortement pour ses exports sur le continent, et les autres, on a beaucoup d'industries, les voitures, etc., qui sont dans la même position. Donc, il s'agit d'une économie qui va souffrir un peu, mais quand même, je crois que le Royaume-Uni va survivre. On a toujours des atouts ici en Grande-Bretagne, mais il s'agit d'un monde avec moins d'influence, une économie un peu
plus petit qu'actuellement.
Jean-Dominique Giuliani, pour son commerce et ses échanges financiers, le Royaume-Uni est beaucoup plus dépendant de l'Union européenne que l'inverse. 46% du commerce extérieur de la Grande-Bretagne va vers l'Union européenne, alors que pour l'Union européenne, c'est 5% seulement du commerce de l'Union européenne qui est exporté vers le Royaume-Uni. Donc il y a quand même une grande différence.
Il y a une grande différence, elle est plutôt en faveur du continent, en quelque sorte, mais le continent n'a pas intérêt non plus à punir ou lancer une guerre commerciale avec l'Union européenne. Je prends l'exemple de mémoire de la production de véhicules automobiles dont on vient de parler. Je crois que au Royaume-Uni, c'était un record en 2007, 1 800 000.
Presque 2 millions, oui.
Presque 2 millions, mais 2/3 des équipements qui ont servi à fabriquer ces véhicules viennent du continent. Donc vous voyez, l'intérêt est mutuel. C'est un peu la magie de l'Europe, c'est-à-dire on n'est pas l'un contre l'autre, on est vraiment dans le même bateau.
Et ce que vous dites est vraiment très intéressant, parce que si les constructeurs britanniques sont obligés d'importer avec une taxe les éléments qui vont fabriquer ces voitures et qu'elle est réexportée vers le continent avec une deuxième taxe, ça fait deux taxes, ça rendra évidemment la production peu concurrentielle.
Mais les Européens n'ont pas du tout intérêt non plus à pénaliser ces échanges-là, n'est-ce pas? Donc et c'est dans tous les secteurs la même chose. Si on prend celui de la pêche, alors c'est l'Union européenne qui est plus dépendante des eaux britanniques, d'ailleurs écossaises, la plupart du temps. Donc si vous voulez, l'Europe, c'est pas des États les uns contre les autres. On le présente souvent comme ça. Nos hommes politiques, partout dans nos pays, disent « j'ai gagné à Bruxelles ». Ça se présente pas comme ça. On a vraiment mis beaucoup de choses en commun. Il y a des entreprises aujourd'hui, par exemple le troisième missilier mondial s'appelle MBDA. C'est une société franco-britannico-italienne. Et elle ne peut pas se passer d'avoir accès à ces laboratoires qui sont à Londres, qui sont uniques, ou ailleurs au Royaume-Uni, ou en France, ou en Italie. C'est complètement lié. C'est pour ça que ça va être très compliqué comme négociation, parce que personne n'intéresse à tirer une balle dans le pied non plus.
Alors, Paul Taylor, si ça se passait un peu mal, le Royaume-Uni, en tout cas Theresa May l'a laissé sous-entendre, elle a une carte maîtresse dans sa main, elle pourrait transformer cette grande île qu'est la Grande-Bretagne en un très très grand paradis fiscal aux portes de l'Europe. Ce serait une guerre ouverte entre le Royaume-Uni et l'Union européenne si cela voyait le jour.
Je pense que Mme May est obligée de dire ça, parce que dans une négociation, surtout une négociation où on est demandeur, ce qui est le cas du Royaume-Uni, on est obligé d'avoir quelque part une menace. Si vous ne me donnez pas ce que je veux, je peux faire en sorte qu'on se détruise mutuellement. Mais ce n'est pas très, très crédible. C'est d'abord pas très crédible parce que ça priverait le Royaume-Uni de beaucoup de revenus, alors que l'échiquier en manque de façon assez grave. Mais aussi, c'est pas très croyable parce que ça mettrait à mal tout l'édifice social au Royaume-Uni, alors que justement un des ressorts du vote pour le Brexit, c'était un cri de désespoir social de certaines régions du pays. Quand vous regardez la carte de là où on a voté pour le Brexit, ce sont ceux qui se considèrent comme laissés pour compte, left behind, et si ces gens-là vont être des victimes, ils vont pas être des victimes consentantes. Je voudrais simplement souligner que il y a une clause que mes collègues de Politico ont débusquée dans les accords de l'OMC, de l'Organisation mondiale du commerce, qui fait qu'on peut sursoir pendant jusqu'à 10 ans à appliquer des tarifs à un pays qui quitte un groupement économique comme ça. Il y a des précédents ce qui permettent ce que la législation appelle un délai raisonnable, qui a été jugé par un tribunal comme étant une décennie. Et donc, je pense qu'il est tout à fait probable qu'on utilise cette clause pour éviter que l'économie, le commerce entre le Royaume-Uni et le continent ne tombe de l'armoire, comme on dit en français, ou ne tombe d'une falaise, comme on dit en anglais.
Alors, autre sujet d'inquiétude pour Theresa May, mais c'est l'annonce de Nicola Sturgeon, la première ministre écossaise, d'organiser un nouveau référendum sur l'indépendance de l'Écosse. Il y a un autre grave problème qui menace donc le Royaume-Uni, celui de la désunion. Il faut rappeler que le 23 juin dernier, les Écossais avaient voté voté à plus de 60% pour le maintien du Royaume-Uni dans l'Union européenne. Et Nicola Sturgeon a même déjà fixé une date possible pour ce référendum. Elle est esquissée entre la fin 2018 et le début 2019. Et dans l'hypothèse où Londres s'opposerait à la tenue d'un tel référendum, Édimbourg paraît prêt à passer outre, comme l'a confirmé Alan Smith, eurodéputé écossais du SNP, le Parti national écossais, joint par Maria Afonso.
Dans la Constitution britannique, il n'y a pas un seul document. Alors c'est une question pour les avocats, c'est une question pour les cours. Mais le précédent s'est déjà fait. Les bases de notre union avec Royaume-Uni, Grande-Bretagne, c'est le traité de l'Union de 1707. Alors c'est notre droit de faire cette décision. Nous avons un mandat absolument clair, démocratique, dont le Parlement écossais, le Parti national avec les Verts, nous sommes en majorité pro un référendum, peut-être avec les autres partis aussi. Alors c'est une question de négociation politique. Le précédent, le Edinburgh Agreement pour organiser le dernier référendum sur l'indépendance, c'est le précédent entre David Cameron et Alex Salmond. Alors c'est une question de négociation entre le Royaume-Uni à Londres et à Édimbourg. Mais à notre avis, nous avons absolument le droit d'organiser le référendum pour garder nos intérêts.
Et dans l'hypothèse où Londres s'y oppose, est-ce que vous passeriez outre cette décision?
J'espère qu'il y a une bonne solution entre les discussions. Les discussions, c'est pas encore commencé en direct. Le Royaume-Uni, c'est un état très compliqué. Nous avons la situation à Irlande du Nord, Gibraltar, en Écosse. Et le Brexit, c'est un désastre chez nous. Je pense que le Brexit dur, c'est pas du tout inévitable. Nous avons travaillé de trouver les solutions. C'est possible, par exemple, de quitter l'Union européenne, mais rester dans l'espace économique européen et garder les quatre libertés. Ça, c'est notre proposition pour un compromis. Mais ça dépend d'un vrai discours, une vraie négociation entre Édimbourg et Londres. Et ça, c'est une question pour Theresa May.
John Pitt, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'un accord entre Londres et Édimbourg sur la tenue ou non de ce référendum est loin d'être gagné. C'est le moins qu'on puisse dire, hein.
Absolument. Theresa May a été très claire. Elle a dit que c'est pas le moment pour un deuxième référendum écossais. Donc, elle a rejeté déjà la demande de Nicola Sturgeon. Je crois qu'elle n'a pas dit jamais, mais elle a dit clairement qu'il faut attendre le résultat des négociations sur le Brexit avant un référendum écossais. Donc, ça sera difficile. Les relations entre Theresa May et Nicola Sturgeon seront très difficiles.
Paul Taylor, il y a une vraie menace de désunion, d'autant plus qu'à la frontière entre la République d'Irlande et l'Irlande du Nord, entre Dublin et Belfast, donc la situation risque aussi de devenir conflictuelle. Il y a ce problème de la frontière qui est aujourd'hui très ouverte, elle n'existe pas. Et puis, il y a évidemment le risque pour Londres d'une volonté d'un rattachement des Irlandais du Nord avec Dublin. Il faut rappeler que la nouvelle composition du Parlement de Belfast, aujourd'hui, il est à peu près égalité entre les unionistes, favorables au maintien dans le Royaume-Uni, et puis les indépendantistes, notamment du Sinn Féin.
Oui, tout à fait. Et je pense que le Brexit, c'est un champ de mine pour l'unité du Royaume-Uni. En même temps, il faut rappeler que si les Écossais n'ont pas choisi l'indépendance il y a deux ans et demi, lorsqu'ils ont eu un premier référendum, c'était principalement pour des raisons de crainte économique. Et que cette situation économique, elle s'est plutôt aggravée qu'améliorée les perspectives pour les Écossais, pour une Écosse indépendante. L'Écosse vit très largement de subventions de Londres.
Et du pétrole dont les revenus s'amoindrissent.
$50 le baril aujourd'hui, comparé à 140 lors de la précédente campagne. Donc, l'Écosse est objectivement plus pauvre dans ses perspectives économiques. Maintenant, est-ce que ce sera un vote rationnel? Et l'autre aspect qui est très important, c'est que l'Écosse, les Écossais, même s'ils espèrent pouvoir se raccorder tout de suite à l'Union européenne, on leur explique que premièrement, ils devront sortir avec le Royaume-Uni et ensuite de l'extérieur demander l'adhésion, et que deuxièmement, il y aura des États, comme notamment l'Espagne, qui craint énormément le précédent pour la Catalogne, qui se mettront en travers de leur chemin et qui diront ils vont d'abord devoir faire la queue et aller derrière, au bout de la queue, tout au fond, avant de pouvoir négocier leur accession. Donc, je pense que pour des tas de raisons, l'équation n'est pas forcément plus favorable à l'indépendance de l'Écosse aujourd'hui ou demain à la suite du Brexit qu'elle ne l'était avant, mais sera-ce une vote rationnelle ou sera-ce un vote avec les tripes, comme le vote pour le Brexit, à mon sens, a été un vote avec les tripes.
Jean-Dominique Giuliani, le problème de l'indépendance de l'Écosse, ça pose un problème pour les Européens, de la même façon que le problème de cette frontière entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande, entre Belfast et Dublin.
Oui, mais que ce soit pour les Catalans ou les Écossais, vous avez remarqué que l'Union Européenne ne joue jamais à la division des États. Et il y a d'ailleurs un article des traités, l'article 4 du traité de l'Union Européenne, qui a été rédigé par le président Giscard d'Estaing et un Écossais, Sir John Kerr, qui était secrétaire général de la Convention européenne, et qui dit que l'Union européenne respecte l'intégrité constitutionnelle des États. C'est donc un problème britannique. Pour autant, s'agissant de l'Irlande, l'aide de l'Union européenne, après l'accord qui est intervenu sous mandat international, encore avec l'intervention des Américains, etc., a été considérable. Les Européens ont payé beaucoup de choses, la suppression des murs à l'intérieur de Belfast, etc.
Donc, et ils ont permis à l'Irlande du Nord de revenir un petit
absolument.
Peu dans le peloton.
Donc, vous voyez, un, on ne joue pas à la division des États, le sécessionnisme, etc. Deux, quand on peut aider, on aide, mais c'est un problème britannique, à mon avis, dans lequel aucun État membre de l'Union Européenne, et certainement pas les institutions communes, voudront mettre de l'huile sur le feu.
Alors, question pour les Européens, donc question pour vous, Jean-Dominique Giuliani, est-ce que les Européens resteront unis face à cette négociation de Brexit? Pour l'instant, depuis le 23 juin 2016 jusqu'à aujourd'hui, les 27 ont parlé d'une seule voix. Est-ce que ça va continuer?
Ben, écoutez, pour l'instant, c'est assez étonnant, parce qu'à plusieurs reprises, Theresa May a essayé de, par exemple, au Conseil européen du 15 décembre, elle souhaitait qu'on règle par une déclaration l'affaire des citoyens qui sont installés respectivement dans les deux territoires, et personne n'a voulu parler, et tout le monde respecte le fait qu'il y a une négociation qui doit suivre son cours. Pourquoi ? Parce que les intérêts des uns et des autres ne sont pas les mêmes. Par exemple, les pays d'Europe centrale et orientale, surtout les Polonais, ont intérêt à protéger leurs ressortissants.
Environ 850 000 Polonais
au Royaume-Uni, qui n'y seraient pas si Tony Blair avait fait comme tous les autres États membres, il faut le rappeler quand même. Lorsque, en 2004, la Pologne, avec 9 autres États d'Europe centrale, a adhéré, il y avait des clauses de sauvegarde pour éviter les transferts de population. Les seuls qui ont voulu donner des leçons à tout le monde, ce sont les Britanniques. Et Tony Blair a dit « Chez moi, c'est la liberté ». Bon, il y en a en quoi tout le monde s'est précipité.
C'est un peu l'histoire de l'arroseur érosé.
Absolument. Donc, c'est d'abord un problème britannique qui doit être corrigé, je ne sais pas comment. Et on voit que c'est très important pour Theresa May. Mais, si vous voulez, pour les pays d'Europe centrale et d'Europe de l'Est, c'est le problème de leurs ressortissants. Pour les Français, ce sera la pêche et l'agriculture, vraisemblablement. Pour l'Allemagne, plutôt l'industrie, etc. La France a par exemple, un excédent, un de ses rares excédents commerciaux de plus de 12 milliards d'euros avec le Royaume-Uni. Donc, elle a plutôt intérêt à ce que tout ça se passe bien. Les Néerlandais sont très une industrie et une finance très imbriquées. Donc, les intérêts ne sont pas les mêmes, mais pour l'instant, ils convergent tous dans l'idée que restons ensemble pour préserver nos intérêts.
Et à partir de quand ils risquent de diverger, sachant qu'on peut compter sur les Britanniques pour essayer d'ouvrir des brèches?
Oui, c'est ce que fait la diplomatie britannique depuis pratiquement 500 ans, donc il n'y a aucune raison que ça ne...
Il y a du savoir-faire.
Ça ne continue pas, mais je ne crois pas qu'il faille non plus aller trop loin, et lorsqu'on rentrera dans le détail, évidemment, là, ça risque de tanguer un peu, mais Pour l'instant, je suis plutôt frappé par la solidarité des Européens et la procédure qui a été retenue. Vous savez, bon, je vous disais, c'est une affaire entre États. Et finalement, on a confié à la Commission européenne, à Michel Barnier, le soin d'être le négociateur en chef. C'est donc la preuve aussi qu'on veut, qu'il y a une volonté de négocier proprement. Et de manière unie.
Paul Taylor, un mot sur l'Europe de la défense. Je sais que c'est un sujet qui vous tient à cœur. La Grande-Bretagne, c'est évidemment un des deux principaux piliers de la défense européenne. D'abord par la dimension nucléaire et puis ensuite par sa capacité de projection. Et en même temps, ça a été toujours le principal frein à son approfondissement. En deux mots, quelle peut être la position des Britanniques sur le plan de la défense après le Brexit ?
Les Britanniques vont vouloir maintenir le plus de liens possible en bilatéral avec les Français et en général avec l'Europe. Il existe déjà dans les accords qui ont été négociés entre l'OTAN et l'Union européenne et entre les pays membres de l'OTAN, des possibilités pour des pays de participer à des opérations européennes sans être membres de l'Union et tout en ayant un droit à la consultation avant la prise de décision et ensuite sur la conduite des opérations. Là où les Britanniques ne pourront pas avoir un rôle, c'est dans la salle où les Européens membres de l'Union décideront d'une opération. Mais c'est peut-être pas l'endroit le plus important. Ils auront besoin des Britanniques, notamment les Français. Il y a en bilatéral des accords très importants, y compris pour faire des tests virtuels de leurs armements nucléaires qui sont indispensables et dans lesquels on a déjà investi des dizaines de millions d'euros. Et donc ça, je pense que ça va se maintenir. Et il est possible que ces relations-là servent un petit peu de ciment entre le Royaume-Uni et ses ex-partenaires de l'Union après le Brexit. Seulement, et si le Brexit se passait
pas trop mal,
je ne crois pas, ça aurait forcément des retombées. Et il y a chez les Britanniques des partisans d'un Brexit très dur, qui sont très pro-américains, qui vont chercher je ne sais pas quelle alliance dans l'anglosphère, avec l'Amérique de M. Trump, avec d'autres anciennes colonies dites blanches du Royaume-Uni. Mais je pense que tout ça, c'est un petit peu illusoire.
Paul, merci, on a compris que le Brexit peut-être pas si mal se passer que ça. Ça peut être aussi l'occasion pour les Européens de rebondir. Merci à tous les trois d'avoir été au Carrefour de l'Europe. Vous pouvez réécouter cette émission et toutes les autres, toutes celles qui l'ont précédée sur le site RFI.fr et sur les applis mobiles de RFI. Daniel Escalou, que vous soyez à Londres ou à Paris ou dans le reste du monde, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et tout de suite un nouveau journal sur RFI, la radio de l'Europe et du monde. Au revoir.
Priorité santé.